Alors bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous ce matin? Super. Soyez les bienvenus en Alsace, à Strasbourg, l'une des plus belles villes du monde. C'est vrai. Vous ne croyez pas? Soyez bénis parmi nous. Alors ce matin, le thème du message que j'ai eu à cœur, c'est donner. Alors, on va le dire, mais dans plusieurs Bibles, plusieurs versions, ce qui est écrit, c'est le jugement. Et en lisant, je me suis dit effectivement, ce sera un jugement si on n'applique pas ce qui est dit. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il n'y a pas de surprise. Il ne veut pas nous prendre par surprise. Il nous avertit de ce qui va se passer afin que nous nous préparions à ne pas tomber dans la sentence. Ce serait tellement bien si mon patron agissait de la même manière que moi. Je serais donc très heureux. Mais ce n'est qu'un homme. Nous allons faire la lecture de Matthieu 5, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli, ou nu, et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Répondant aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. » Alors, simplement, juste un petit rappel, dans Éphésiens 2, 8, 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Allez, d'accord. Nous sommes sauvés par la foi. Et en même temps, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ceci étant dit, ce texte, finalement, je me suis dit, il n'est pas si compliqué que ça. Donner à boire, donner à manger, finalement. Partager mon pain, est-ce pas compliqué? Ça, c'est la théorie. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait attention à la vie que nous menons, ce ne sont pas les choses que nous faisons spontanément. Si nous faisons attention, si on va vérifier certaines poubelles, vous verrez combien elles sont remplies de bonne nourriture. Ce n'est pas parce qu'on a la flemme d'aller donner, mais c'est quelque chose que nous devons apprendre à cultiver en nous. Donner sans attendre le moindre retour. Ce qui me frappe dans ce texte, on reviendra un peu dessus après, c'est que personne ne réalisait que ce qu'il faisait, c'était Jésus qui était derrière. Personne ne le réalisait. Combien de fois est-ce qu'on peut se dire, oui, Jésus vient en moi. Lorsque je regarde un chrétien, je me dis, Jésus vient en lui. Intellectuellement, je le saisis, mais pas forcément mon cœur. Parce que si je réalisais que Jésus était là en chacun d'entre vous, certainement mon comportement serait autre tous les jours. Mon regard serait autre tous les jours. Ce serait un regard rempli de compassion, d'admiration, tout ce que vous voulez. Assurez-vous, je ne vous mettrai pas à genoux devant vous. Mais c'est juste pour vous dire que intellectuellement, je le crois, je le saisis. Mais est-ce que mon cœur y est vraiment? Je lisais un article fait par l'Observatoire des inégalités et qui disait ceci. Voici le portrait robot d'une personne pauvre. C'est en France, hein? Je précise, c'est en France, ce n'est pas sous les tropiques. Donc, c'est une personne plutôt jeune, vivant en famille, peu diplômée, ouvrière ou employée. 1 800 000 de personnes pauvres sont des enfants et des adolescents. 1 800 000 personnes, enfants et adolescents. Il représente un gros tiers de l'ensemble des 5 millions de personnes pauvres. Les jeunes adultes, 20 à 29 ans, représentent 17% des personnes pauvres. Il s'agit souvent de jeunes peu qualifiés, en difficulté d'insertion sur le marché du travail, au chômage et mal indemnisés. La pauvreté frappe très lourdement les immigrés. Au total, 2 millions de personnes vivant dans un ménage immigré étaient concernées, enfants compris, ce qui représente un quart de la population pauvre. Je reprécise, il s'agit des statistiques en France. Alors, l'image qu'on donne lorsqu'on veut parler de l'aspect de donner, c'est souvent un gâteau à partager. C'est l'image qu'on donne souvent dans certains cours d'économie. Il y a un gâteau à partager entre différentes personnes. Alors moi, je reçois ma part de gâteau, qui est mon salaire. Mais au moment où je reçois mon salaire, je regarde ma fiche de paie et je dis, Seigneur, si l'État ne prenait pas tout ça, ce serait déjà pas mal. Et après, je commence à faire mes calculs. Alors, s'il y a des salariés ici, qui jugent être très bien payés? Personne, bizarrement. Je bénis le Seigneur pour le salaire que j'ai. Je bénis le Seigneur. Ah, voilà. Mais je bénis le Seigneur un peu plus, ce serait pas mal. Mais dans cette part-là, je dois donner encore quelque chose. Waouh, Seigneur, c'est compliqué cette histoire. Quand j'ai fait mes calculs, comment vais-je faire, Seigneur, pour donner? Pourtant, le Seigneur me dit, tu peux lui donner. Le Seigneur me dit, donne. Celui qui tend la main vers toi, donne. Mais en même temps, il me dit, Seigneur, c'est bien compliqué. Si tu faisais un effort, voilà, si tu t'arrangeais pour qu'il y ait une augmentation, l'augmentation arrive, je lui dis, bon, tu vois, Seigneur, maintenant il y a cette augmentation. Alors, oui, ben bon, ce n'était pas suffisant. Voilà. C'est un cercle vicieux. Le gâteau à partager, pour moi, il est déjà limité, il n'est pas forcément suffisant. Mais le Seigneur me dit, donne. La deuxième image sur le gâteau, c'est qu'il y a un gâteau pour un certain nombre de personnes à partager. Ça veut dire que si on rajoute d'autres personnes, dans un jeu de personnes, la part de gâteau ne sera même plus suffisante, il va encore diminuer. Vous voyez où est-ce que nous en venir? Lorsqu'il y a deux personnes qui viennent sur le marché, je me dis, attention, je commence à calculer. Alors maintenant, j'ai plus de 50 ans, je vois des jeunes loups qui arrivent, je suis en danger, si jamais je suis éjecté, je suis foutu. Si je peux freiner, je freine. La part de gâteau n'a fait que diminuer. J'ai eu une discussion il y a quelques semaines avec une de mes filles. Après ses études à l'étranger, elle m'a raconté la prédication d'un de leurs pasteurs. Vous allez voir, c'est génial. J'espère qu'après, on pourra tout arrêter. Le pasteur a raconté qu'il était allé en fast-food avec son petit garçon. Ils ont commencé à manger, à acheter des frites à ton petit garçon. À un moment donné, il dit au petit garçon, est-ce que tu peux me passer une frite? Le petit garçon dit, mais non, papa, c'est à moi. Le père dit, mais écoute, oui, c'est moi qui te les ai achetés. Non, je ne te donnerai pas une frite. Et à ce moment-là, le pasteur se sent interpellé. C'est ce que tu fais avec moi aussi. Je te donne lorsque je te demande de me redonner quelque chose que tu ne veux pas, parce que tu as peur d'en manquer. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque je reçois, les calculs que je fais ne sont que des calculs purement humains. Sur le plan comptable, ça tient la route, mais sur le plan spirituel, ça ne tient pas la route. Parce que la parole déclare que tout ce que je me vient de Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu avare, il n'est pas un Dieu mesquin, il n'est pas un Dieu méchant, il est riche en bonté, nous dit la parole. Alors si je fais l'effort au moment où quelqu'un tend la main vers moi, Dieu n'oubliera pas ce geste-là. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire à ce moment-là, mais un jour le Seigneur me dira, chéri, au moment où tu l'as fait, je t'en prie. C'est là toute la différence, frères et sœurs. Ce n'est pas regarder uniquement dans les calculs que nous faisons, apprenons aussi à entrer dans le calcul que Dieu lui fait. Dans ce petit garçon, s'il avait encore besoin de frites, son père lui en aura encore donné. Sauf si la maman est à côté de vous, attention, c'est trop gras. Mais le père aurait donné encore des frites. Mais c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous, avec chacun d'entre nous, avec son Église en particulier. Ce texte n'est pas en train de parler de l'Église, ce texte parle de chacun d'entre nous, de notre responsabilité. Pendant longtemps, j'avais du mal à saisir pleinement le récit du Seigneur sur l'histoire du riche et de Lazare. Je me disais, Seigneur, oui, c'est vrai. Ce riche, il était quand même un peu trop dur avec ce Lazare. Avec tout ce qu'il avait, il aurait pu faire un effort. Voilà, qu'est-ce que ça lui coûtait. Et cette histoire m'a rattrapé mercredi dernier. Là, j'ai compris parfaitement ce que ça voulait signifier, en tout cas pour moi. Alors, j'étais avec mon épouse, pour ceux qui connaissent Strasbourg, on était du côté de la route de Schirmeck. Et on devait aller prendre un panier de légumes, parce qu'on est inscrit à une AMAP, du côté de la Crute, non. Alors qu'on était au lieu, il y avait une famille qui était là, qui demandait de l'argent, qui demandait de l'aide. Alors il me dit, oh là là, est-ce que tu as de l'argent sur toi? J'ai dit, mais non, mais j'ai rien, je n'ai que ma carte. Elle me dit, mais j'ai à cœur de leur donner quelque chose. Et puis, écoute, on va revenir, on va repasser par ici pour leur donner des légumes. Je lui ai dit, écoute, on est censé faire Crutno Cronambourg. Là, on va faire Crutno Rudissermec, ensuite Cronambourg. Je lui ai dit, mais ça fait un sacré détour, ton histoire-là. Elle me dit, mais non, écoute, mais j'ai à cœur de leur donner quelque chose. Je me dis intérieurement, déjà une journée aussi chaude, je suis fatigué, il est 19h et je me vois en train de faire des détours alors que j'ai encore des choses à faire. Bon. Nous sommes arrivés alors qu'elle est descendue. Moi, j'ai commencé à réfléchir comment lui donner l'argument pour ne pas faire ce détour-là. J'ai été très inspiré, très vite. Je me suis dit, mais je regarde en voiture, il faisait 35 degrés. C'est ce que je vais lui dire. Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es dans une voiture climatisée. Ils sont dehors. Et tu es incapable de faire ce petit détour pour aller leur donner à manger alors qu'ils n'attendent que ce que les gens vont leur donner. Je me suis dit, Seigneur, oui. Je suis devenu insensible. Ils ont faim, ils ont faim, ils souffrent. Mais moi, mon petit confort, pourtant j'ai ce confort-là, je suis incapable de faire cet effort. J'ai rien dit, je peux vous dire, j'ai rien dit, je n'ai rien raconté. Maintenant, il entend l'histoire après. Et nous sommes allés leur donner des légumes, ils étaient contents. Faisons attention. Vous savez, nous ne sommes pas Strasbourg, ce n'est pas Paris. Ni Grande-Sainte. Je vous assure, quand vous allez à Paris, à certains endroits à Paris, vous êtes impressionné par tout ce que vous voyez. Mais est-ce qu'à Strasbourg, la pauvreté n'est pas là? J'ai discuté il y a quelques temps avec une personne chrétienne. Et ce n'était pas un entretien, voilà, c'était une simple discussion. Voilà. Et pour la discussion, la personne finit par me dire, tu sais, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Alors je me suis dit, Seigneur, waouh. Chaque fois que je vois la personne, alors comment ça va? Oui, ça va, ok, c'est bon, je passe. Et si on prenait ce temps-là? Prendre le temps de là du simple ça va, prendre simplement le temps de voir est-ce que ça va réellement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, merci Seigneur pour le pôle social. Merci Seigneur. Mais là, il s'agit de l'implication de chacun d'entre nous. Le Seigneur peut se passer de nous. Vous savez, je suis là, Seigneur, voilà. Imaginez-vous un instant qu'il y ait là, c'est pas tout, au travers de cette estrade, vous commencez à voir la manifestation de la puissance de Dieu. Finalement, mon rôle, zéro. Le Seigneur, finalement, il peut se passer de moi comme il veut, quand il veut. Mais ce n'est qu'une grâce qu'il nous fait de vouloir se servir de nous pour que nous puissions manifester le royaume de Dieu au milieu de nos contemporains, pour que nous puissions manifester le royaume de Dieu au milieu de nous. Frères et sœurs, l'État, il fait ce qu'il peut. Okay? Mais même l'État est dépassé aujourd'hui, il n'a plus suffisamment d'argent. Je disais encore, je crois hier, où on disait qu'il y avait réduction des APL. Réduction des APL, il y aura, je crois, une fusion des revenus sociaux, ce qui fait qu'il y a, je crois, 1 million, d'après ce que je disais, il y a 1 million de personnes qui vont perdre quelque chose dans l'histoire. Je dis bien, c'est la logique de l'État. C'est la logique de l'État. Bénissez le Seigneur pour ce que l'État fait. C'est l'État providentiel. Mais aujourd'hui, depuis la providence, là, est bloquée. Je vous lis un petit passage qui m'a... Alors, c'est issu de... Il faut que je retrouve le passage. En fait, voilà. Voilà ce que dit, c'est dans God's les exhortations bibliques à s'occuper des pauvres s'adressent davantage à l'individu qu'à la société. Autrement dit, tous les chrétiens sont encouragés à faire ce qu'ils peuvent pour venir en aide aux plus petits, sur la base du deuxième grand commandement, aimer son prochain comme soi-même. La justice sociale, dans son sens actuel, remplace l'individu par le gouvernement qui redistribue les richesses par ses impôts et d'autres moyens. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, la suite. Cette politique n'encourage pas le don volontaire par amour. Tout ce que l'État fait, si quelqu'un vient me voir, je lui dis, la personne expose son problème, je lui dis, écoute, tu connais quelqu'un qui travaille dans les services sociaux, la personne va faire ce qu'il faut pour toi. Vous allez me dire, j'ai servi à quelque chose, je lui ai donné une formation. Ok, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière, je n'en sais rien. Ou alors, je lui dis, écoute, va voir Nathalie, pense social, ça va marcher. C'est moi que la personne est venue voir. C'est moi qui suis censé être le premier à répondre à cet appel-là. Par amour pour mon prochain, pour mon frère en Christ. Cette politique n'encourage pas le don volontaire par amour, mais le ressentiment de ceux qui se retrouvent privés du fruit de leur labeur. Donc, si nous nous appuyons uniquement sur la politique sociale, frères et sœurs, nous perdons de vue beaucoup de choses. Nous perdons de vue l'essentiel même, qui est l'essence même de notre vie, qui est l'amour pour notre prochain. Lorsqu'on reprend le texte que nous avons lu, le Seigneur nous parle aussi des visites aux malades et aux prisonniers. Vous avez déjà été malade une fois? Non? Oh, wow. Alors là, je dois être particulier. Voilà. Quand on va aller voir un malade, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on se pose plusieurs questions. Souvent, en tout cas pour moi, qu'est-ce que Dieu aime pouvoir lui dire? Quel va être son état? Il y a le respect qu'il faut avoir pour le malade. Il ne faut pas arriver avec ses gros sabots. Voilà. Non. Il y a des. Quand j'ai des professions, non, moi, personnellement, je prie énormément avant. Comme le Seigneur, donne que je sois inspiré, donne que, voilà, que je parte le temps qu'il faut. Vous savez, nous sommes, nous nous disons une grande communauté. Il y a un moment, je me dis, Seigneur, c'est vrai, il y a un moment, je dis, Seigneur, non, c'est la rigolade là. Vous savez, avec, dans les actes des apôtres, il y a un seul jour, une conversion de combien? 3000 personnes? Nous sommes combien? 700? Donc, voilà. Combien parmi nous peuvent se retrouver malades sans visite? Je vous parle d'un cas que j'ai vécu récemment. Ça faisait pratiquement 4 mois que la personne n'avait pas de visite. Ce n'est pas le seul cas. Quelqu'un disait une fois, le plus dur dans la solitude ou dans l'isolement, c'est lorsqu'on est entouré de personnes et qu'on se retrouve finalement seul. Cette personne-là attendait une visite, mais la visite n'arrivait pas. Elle était complètement isolée. Et je suis allé avec Jacques Lepard. Nous avions prévu, on s'est dit, voilà, c'est 10-20 minutes et puis on va repartir. Mais nous sommes restés 2 heures. La personne ne voulait que nous lâcher. Je suis sorti de là en me disant, Seigneur, aide-moi en premier. Vous savez, quand on prend les emplois du temps, il y a un moment où je me dis, le président Macron doit peut-être rougir à côté de nos emplois du temps. Lui, au moins, il y a des gens qui organisent son emploi du temps, alors que nous, voilà, vous avez votre charge, votre journée de travail, vous rentrez, il y a la famille, il y a des réunions à l'église, voilà. Comment faire pour trouver le temps pour aller visiter nos personnes? Vous avez, comme on dit, mais quelqu'un disait, les personnes qui sont jeunes depuis plus longtemps que moi. Simplement, comment vas-tu? Une fois, j'étais malade, et Eric Panifo est venu, rien que 5 minutes, il est venu, mon frère, je viens, j'ai prié pour toi. Il est venu, il a prié, je m'étais endormi, il est reparti. Rien que ça, frères et sœurs. Rien que ça. La prière, c'est une arme. Venir avec son cœur, ça se sent. Cette personne qui vient là, qui vient, ça redonne des forces. Nous avons des forces renouvelées. La solitude mine. Elle tue. La personne que nous avons visitée nous disait, combien le culte me manque. Oui, elle aspire à être au milieu de nous. Mais finalement, que faisons-nous pour lui dire, tu es frère, tu es mon frère, tu es mon frère. Je sais que tu souffres, alors je suis là. Je ne peux pas faire peut-être grand-chose, mais rien que cette visite. Rien que cette visite. Aller rendre visite à un prisonnier, c'est un peu compliqué. Mais parfois, oh là, Seigneur, tout n'a pas pensé à remplir, comment vais-je faire? Et en plus, en prison, ce n'est pas possible. Mais oui, le Seigneur nous invite à aller en prison aussi. Aussi. J'étais prisonnier. J'étais prisonnier. Tu m'as rendu. Il y a des jours où je me dis, Seigneur, il y a des choses que j'ai. Peut-être que vous allez m'aider. Hein. Il y a un lave-vaisselle, un lave-linge, micro-ondes, des cuisinières de four qu'on peut programmer. Malgré ça, on n'a pas le temps. Il y a un problème. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Pas, en tout cas, lorsque je dis, moi, je parle pour moi, ce n'est pas que je sois de mauvaise volonté, je ne pense pas. Mais je me dis, Seigneur, je suis limité. Et Dieu a bien fait les choses à une journée, c'est 24 heures, ça ne changera pas. Mais comment dans tout ça, arriver à basculer, oui, dans cet amour fraternel, lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. On le sait. Est-ce que c'est cette réalité-là que nous vivons? Un membre qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Regardez nos aînés. Est-ce que nous prenons soin de nos aînés? Vous savez, ils n'ont pas forcément besoin de grandes choses. Simplement, allez les voir. Une petite visite, un petit sourire, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer beaucoup de choses. Et moi, je vais gérer encore plus loin. Un sourire au nom de Jésus change les choses. Si le Seigneur m'avait demandé des choses compliquées, je me dirais, waouh, le Seigneur, tu es dur. Tu avais dit de courir un marathon, et le Seigneur, là, tu veux vraiment me tuer. Non. Partage le pain. Il y a un pasteur argentin qui, tout Et le dimanche, à la fin du culte, il disait, frère, soyez béni, bon appétit. Et puis un jour, le Seigneur l'a interpellé. Tous les dimanches, tu dis bon appétit. Est-ce que tu t'es assuré que tout le monde dans ton église mange? Et il a fait un sondage et s'est rendu compte, je crois, 10 ou 20% ne mangeaient pas. Et ça bouleversait le culte. Au lieu de faire le culte, là, il le faisait en plein air, il partageait tous le repas. Et là, ça pouvait être bon appétit. Frères et sœurs, comment voulons-nous révolutionner ce monde? Encore une fois, nous sommes dans un pays où, voilà, bénis soit le Seigneur pour la sécu. Hein. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur demandera. Le Seigneur ne te dira pas, écoute, voilà, est-ce que la sécu française était très bonne? Non. As-tu partagé ton pain? Oui, il fait chaud. Voilà, il fait chaud là aujourd'hui. Donner un bon verre d'eau. De l'eau fraîche à quelqu'un aujourd'hui, c'est génial. On a une voisine, alors qu'on était en train de charger un camion, qui disait, écoutez, je ne peux rien, elle nous a donné une bouteille d'eau fraîche. Il faisait chaud. Je vous assure, j'ai apprécié cette bouteille d'eau. Je l'ai bénie. Pourtant, c'est vrai que je monte, je n'avais qu'à faire 3 étages. Mais non. L'instant-là, cette eau avait une autre saveur. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons soin les uns des autres. C'est ce que le Seigneur nous demande là. C'est pas plus. C'est prendre soin les uns des autres. C'est connaître l'autre dans ce qu'il est, dans ses faiblesses, et être capable d'aller vers lui. Parce que ce texte nous parle finalement de notre fragilité. Vous savez, quand vous êtes malade, président ou pas, président SDF, parlez, hein, peut-être lui, ok, il y a des médecins autour de lui, mais il est malade, il ne bouge pas. C'est est-ce que nous sommes conscients que dans nos fragilités, la solution se trouve au milieu de nous? Est-ce que je suis conscient que lorsque mon frère ou ma soeur souffre, je suis la solution? Rien que par la prière. Rien que par la prière, frères et sœurs. Ne négligeons pas la prière. Alors, une des solutions que j'ai trouvées, c'est dans Colossiens 3:12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alors, en cherchant, je me suis dit, Seigneur, voilà, c'est génial. Entrailles, ça nous parle. Alors, j'ai trouvé l'explication qui dit ceci. En français, le mot habituellement utilisé, c'est l'empathie, qui est le fait d'aller vers l'autre et ressentir ce que l'autre peut vivre. Alors, je ne me souviens plus du titre du livre, c'est quelqu'un qui a eu un grand ministère et qui avait à cœur l'Inde. Et le Seigneur lui disait, écoute, puisque tu veux vivre ce que les personnes en Inde vivent et intercéder pour ces personnes-là, alors mets-toi au même régime que ces personnes. Un bol de riz tous les jours, pendant un mois, et tu verras. Donc, c'est aller vers l'autre et se dire voilà. La personne a faim. Ce n'est pas simplement prendre, écouter, voilà, un morceau de pain, non. C'est se dire voilà, il y a cette souffrance-là. Au moment où je vais te donner le morceau de pain, au moment où je vais te donner ce verre d'eau que je réalise, vu que ta souffrance est grande à ce moment-là, et je vais le donner par. Écoute, c'est un verre d'eau. Non. Je ne vais pas dire avec ton cœur que ton cœur se trouve dans ce verre d'eau, dans ce morceau de pain. Et donc, il disait, pour tout concept abstrait, l'hébreu biblique va prendre le mot rahamin, qui veut dire littéralement le sein maternel ou les ont trahis. Donc on comprend que l'empathie dans la Bible est comme le lien viscéral liant une mère à son fils. Donc si on reprend ce texte, nous devons être liés par une espèce de miséricorde les uns aux autres. Ne pas passer à côté de la souffrance de l'autre. Ne pas être indifférent à la situation de l'autre. Mais aller vers l'autre avec bonté. Il y a un terme que j'aime, humilité. Frères et sœurs, quand on voit un FDF par exemple, c'est un peu trop facile. C'est facile de se dire d'avoir de la condescendance. Mais la Bible me dit de me revêtir d'humilité. D'humilité. Si nous voulons ces choses-là, alors l'Esprit de Dieu pourra faire, et Dieu nous donnera bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le Seigneur nous dit, voilà ce sur quoi il nous attend. Il y aura peut-être un nouveau bâtiment. Ok, super, tu veux donner, tu veux construire le bâtiment, tant mieux. Il sera content. Mais avant tout, vous avez vu, il n'y a pas à tu construire un bâtiment. As-tu donné du pain? As-tu donné un vêtement? Dans Luc 3:11, c'est Jean qui dit, si tu as deux tuniques, donne une à ton frère. Je recommence. Si tu as deux tuniques, donne une à ton frère. C'est un peu compliqué parce que, bon, si tu donnes, voilà, ça ne sera plus à sortir tel pantalon. C'est un peu compliqué. Hein. Mais au final, nous accumulons. Nous ne faisons qu'accumuler. Alors, j'ai pris comme ça rapidement quelques versets parce que le temps passe, qui peuvent nous aider à aller plus loin. Dans Proverbe 22, 9, l'homme qui regarde Dieu avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec les pauvres. Proverbe 19, 17, qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, il lui revaudra. Imaginez-vous dans ce que vous faites que Dieu vous soit redevable. Et c'est là que je me souviens du passage qui dit « Qui m'a prêté et je n'ai jamais rendu ?» C'est Dieu qui le dit. Si Dieu t'est redevable, dors en paix. J'ai parfois l'impression que nous faisons plus confiance aux banques que Dieu. Parce qu'on laisse de l'argent dans les banques et on dort tranquillement. Bon. Une bonne crise, on peut tout perdre. Rassurez-vous. Mais Dieu te dit, si tu le fais, je te suis redevable. Et lui, c'est sûr, il paiera toujours en temps et en heure. Et bien au-delà de ce que tu as pu donner. Lui, il te l'interroge aujourd'hui, tu ne reçois pas grand-chose en banque. Mais Dieu, lui, te donnera bien au-delà de ce que tu peux espérer ou imaginer. Ensuite, la religion pure est sans tâche devant Dieu notre Père. Elle consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. J'ai lu un extrait du discours de l'abbé Pierre, l'appel de 1954. En France, il y a eu une grande vague de froid. À Paris, il faisait moins 15. Dans le nord, ils étaient à moins 25. Et c'est là qu'on commençait, on démarrait ce qu'on connaît aujourd'hui le nom d'Emmaüs. Et voici l'appel qu'il lance à la radio. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y a couverture, paille, soupe, et où l'on lit sous ce titre centre paternel du panache. C'est simplement toi qui souffres, tout que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici, on t'aime. Le monde a besoin de se savoir aimer. J'ai besoin d'aimer, j'ai besoin d'être aimé. C'est le lot de chacun d'entre nous. Et comment manifester cet amour-là? En conclusion, dans 1 Jean 3, 17, 18, si quelqu'un possède des biens du monde et que voilà ce qu'il fait dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Opprimer le pauvre, c'est outrager son créateur, mais avoir la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. Amen. Prions. Merci Seigneur pour tes bontés qui sont infinies. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, aide-nous à accomplir, Seigneur, cette volonté. Tu connais le combat de chacun. Vraiment, je te prie vraiment de pour ceux qui sont déjà, Seigneur, dans cet état d'esprit. Fortifie-les. Donne-leur d'aller encore plus loin, Seigneur, dans ce qu'ils peuvent faire pour toi. Et pour, Seigneur, ceux qui se battent encore, qui essaient, Seigneur, merci parce que tu ne méprises pas nos efforts. Bien au contraire. Tu nous encourages. Tu nous donnes, Seigneur, de fortes nouvelles pour que nous puissions avancer, aller plus loin. Seigneur, ce que nous voulons, c'est voir ta gloire se manifester pleinement dans chacune de nos vies et, Seigneur, dans nos familles et autour de nous.